Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est un été particulier, la preuve, c'est l'été, vous écoutez Culture Média. Non, sérieusement, les masques, le gel, les gestes ou l'absence de gestes, les vacances malgré tout, mais peut-être pas. Pour les Parisiens qui ne partent pas, ou pas encore, pour les déjà rentrés, pour tous ceux qui viennent visiter Paris, un été particulier, une programmation spéciale, plus de 200 spectacles et performances. L'adjoint à la culture à la mairie de Paris, Christophe Girard, vient nous en parler. Les indispensables, chaque mercredi, Thibault Lambert part en balade sur YouTube ce matin. Comment une chaîne a confondu le pseudo-spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin. Première page, vous découvrez tout à l'heure le début du nouveau livre de Majid Cherfi, La part du sarrasin, à paraître chez Actes Sud. Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. Bonne matinée à vous, le journal de la culture est enclenché. Bonjour Damien Capraspin.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Des stars sur les planches, Paris Jackson en musique, un film épatant, une aide pour Avignon, un documentaire participatif et quelques notes de musique qui vont nous faire voyager.
Et l'on commence avec le festival de Deauville qui dévoile son cru 2020.
2020, les célèbres planches s'apprêtent à recevoir la crème du cinéma indépendant américain, vaille que vaille, coûte que coûte. Hier, le festival dévoilait le nom des 14 films sélectionnés pour cette édition forcément un peu particulière. Des films très ancrés dans leur époque, selon le directeur du festival, Bruno Bard. Parmi les thèmes évoqués, la recherche d'identité, l'urgence écologique, la sexualité ou encore l'incertitude face à l'avenir. Alors seront présents à Deauville les cinéastes Kelly Richard, Jonathan Nociter, Miranda July, Eleanor Coppola ou encore Alan Ball, le créateur de la série culte Six Feet Under. À noter, 9 films de la compétition sont réalisés par des femmes, soit plus de la moitié, et une large place sera accordée au premier film. Ils seront 7 au total. Alors la 46e édition du Festival de Deauville se tiendra du 4 au 13 septembre prochain.
On continue en musique. Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, sort un album.
Oui, on connaissait Paris en tant qu'héritière, en tant que mannequin, en tant que hit girl, en tant qu'actrice. Mais désormais, il faudra aussi l'envisager en tant que chanteuse. Elle et son petit ami Gabriel Glenn viennent de sortir leur premier album. Leur groupe s'appelle The Sunflowers. Pour la réalisation du clip de leur premier single, Paris a fait appel à son grand frère, Michael Prince Jackson. Et la chanteuse a déclaré qu'elle espérait apporter un peu de réconfort et d'espoir à ceux qui écouteraient sa musique. Alors l'intention est très louable et vous allez voir, c'est effectivement très doux.
So goddamn glorious, how our hearts tore through us, and you just swore, 'cause love was never like that.
You Look par Paris Jackson. Cinéma, en salle aujourd'hui, un très beau film Madré du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen.
Un film qui relève à la fois du thriller psychologique et de la chronique intime. L'histoire d'une femme qui tente de se reconstruire 10 ans après la mystérieuse disparition de son fils sur une plage des Landes.
Vous n'êtes pas française ? Espagnole ?
Ouais.
Ah ouais ? Vous savez que je parle espagnol ? Yo me llamo Jean.
L'actrice Marta Nieto incarne cette mère brisée qui croit reconnaître son enfant lorsqu'elle croise un adolescent par hasard. Sa prestation avait été saluée au dernier Festival de Venise et c'est largement mérité. Il faut dire qu'elle est tout simplement époustouflante. Alors cinématographiquement parlant, la caméra de Rodrigo Sorogoyen filme cette histoire en grand angle et en plan séquence. La maîtrise de l'espace, les choix de cadrage sont tout simplement épatants. Ici, il est question de résilience, de trouble, de libération. C'est tendu, c'est transgressif, c'est ambigu et plein d'humanité. Le film est vraiment d'une beauté incontestable. Il vous hante longtemps après l'avoir vu. Bref, vous l'aurez compris, Madré, c'est peut-être le film à voir cette semaine en salle. En tout cas, c'est mon conseil ciné, sans aucun doute.
Madré comme adorable, les deux sont à voir. Le ministère de la Culture vient en aide au théâtre d'Avignon.
Et plus particulièrement ceux du festival OFF, un des plus grands marchés au monde pour le théâtre. Un festival qui accueille chaque année plus de 1500 spectacles et des milliers de compagnies désireuses de se faire connaître au plus grand nombre. Et cette année, le OFF a bien évidemment été impacté par la crise sanitaire. Alors le gouvernement vient de débloquer 800 000 euros pour aider les théâtres pérennes et non subventionnés qui ont vu leurs activités annulées. Le festival OFF d'Avignon devait se tenir du 3 au 26 juillet. Pour information, 20% des achats de pièces dans l'Hexagone y sont réalisés en temps normal.
YouTube vous propose de devenir cinéaste le temps d'une journée.
Et c'est un projet mondial, produit par Ridley Scott, le papa d'Alien et de Gladiator, entre autres, et qui sera chapeauté par Kevin MacDonald, le réalisateur du film Le Dernier Roi d'Écosse, ou dernièrement d'un documentaire consacré à Whitney Houston. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Kevin MacDonald et Ridley Scott nous expliquent tout ça en détail.
Ce 25 juillet, chargez votre téléphone, préparez votre caméra et faisons un film ensemble.
Ce projet s'appelle Life in a Day 2020. C'est un documentaire participatif, un portrait du monde à un jour précis.
Tout le monde est concerné par ce film, peu importe votre expérience. Un jour, vous pourrez regarder ce film en vous disant « Ah oui, c'était comme ça en 2020 ».
Donc vous l'aurez compris, les deux cinéastes invitent les youtubeurs du monde entier à filmer leur quotidien sans phare et sans a priori, que vous soyez au cœur d'un événement planétaire ou tout simplement chez vous, tranquillement calé dans votre canapé, vous pouvez proposer vos vidéos sur la page YouTube dédiée au projet.
Ce que nous ne voulons pas, c'est une version enjolivée de vous, comme sur les réseaux sociaux. Nous voulons de l'authenticité, de la réalité.
Ce film fait écho à un autre long métrage participatif qui avait été réalisé en 2010. À l'époque, il avait été visionné plus de 16 millions de fois sur YouTube. 80 000 vidéos avaient été envoyées. Elles venaient de 189 pays différents. Life in a Day version 2020 devrait être projeté au festival de Sundance et il sera accessible sur YouTube dans la foulée.
On termine en musique avec une invitation au voyage.
Oui, c'est un titre qui est sorti il y a quelques semaines, mais j'avais envie de terminer ce journal de la culture avec un peu de soleil, de farniente, de douceur et de plénitude. Alors ça s'appelle Café con leche. Désolé pour l'accent. C'est signé par un producteur canadien qui s'appelle Poirier et il s'est associé avec la chanteuse brésilienne Flavia Coelho. Personnellement, j'adore et je vous propose d'écouter. Vous allez voir, ça fait du bien.
Je vais essayer à l'instant de parler portugais, café comme leche.
Voilà.
Hein, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça.
Merci beaucoup pour ce journal de la culture, Damien Caprespin. Vous avez une tête, vous, à aimer Clara Luciani, non ?
J'adore.
J'en étais sûr. Voici Nu.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Le Covid-19 va-t-il pouvoir se cultiver cet été à Paris ? Le virus qui change de vie ne s'ennuiera pas et la plupart du temps à l'œil. Le programme commence tout à l'heure pour ceux qui ne sont pas en vacances, pas encore ou pas du tout, pour ceux aussi venus des régions qui vont passer du temps dans la capitale. Bonjour Christophe Gérard.
Bonjour Pascal Clark, bonjour Europe 1 qui aime la culture.
Vous êtes l'adjoint à la culture d'Anne Hidalgo, on va feuilleter le programme de l'été ensemble. Mais d'abord, il faut parler de ces attaques auxquelles on va essayer de répondre calmement et aussi concrètement. Le groupe écologiste du Conseil de Paris, vos alliés, demande votre suspension immédiate. Le temps réclame-t-il que l'inspection générale de la mairie mène l'enquête ? Il s'agirait de vérifier, je cite toujours, que vous n'avez pas utilisé votre statut d'adjoint pour aider l'écrivain Gabriel Matzneff, poursuivi pour viol sur mineurs. On se souvient évidemment de la déflagration provoquée par le très bon livre de Vanessa Springora, Le Consentement. Christophe Gérard, est-ce que vous allez vous mettre en retrait ?
Écoutez, je vais être à l'offensive car il se passe, à mon sens, quelque chose de très grave qui est ce mouvement cancel culture, qui vient des États-Unis, qui était parti d'un bon sentiment et d'une belle idée, qui est celle, en effet, comme nous faisions quand nous étions militants.
C'est-à-dire, il faut expliquer cancel culture.
Je vais expliquer, tout à fait. Ce mouvement cancel veut dire annuler. C'est un mouvement qui souhaite s'attaquer aux personnalités publiques ou inconnues pour les annuler, pour les faire disparaître quand elles sont associées au nom de quelqu'un qui, par ailleurs, est accusé d'un crime ou qu'un soupçon se porte sur cette personne. Donc c'est une forme de justice des réseaux sociaux, une justice un peu, d'ailleurs je vous recommande de relire l'époque de la Révolution française, de la terreur, des comités de salut public, et comment Robespierre en effet et ses camarades ont en effet détruit les gens. Donc c'est un mouvement qui y ressemble. Vous me disiez, mes alliés verts, oui, moi j'ai commencé la vie politique par Danny Cohn-Bendit, J'étais candidat sur la liste des Verts de Danny Cohn-Bendit en 99. J'étais membre des Verts et l'écologie sociale, qui est celle du bio, qui est celle de l'humanisme, qui est celle des droits et de la lutte contre les discriminations, mais qui n'est pas celle du toxique. Je pense que les deux élus, les deux nouvelles élus, parce qu'on dit le groupe écologiste, non, ce sont deux
certains
élus.
Certains membres du groupe écologiste.
Ce sont deux élus, principalement, nouvelles, du 12e arrondissement et du centre de Paris, qui, à mon avis, font une erreur historique. Tous les mouvements de lutte contre les discriminations sont liés. Moi, quand je vivais à San Francisco, dans les années 70, que nous luttions contre les discriminations LGBT et que ensuite l'épidémie de sida est arrivée, nous nous sommes inspirés des mouvements noirs et féministes. Tous ces mouvements sont liés. Donc, cette justice, cette nouvelle manière de considérer que la présomption n'est plus d'innocence, mais de culpabilité, est évidemment un fait très grave dans nos démocraties.
Alors, Christophe Gérard, pardon de vous interrompre, il y a quand même des questions qui se posent. Vous avez été entendu le 4 mars dernier par la police judiciaire.
Entendu, en témoin libre.
Entendu en tant que témoin, effectivement.
Comme une cinquantaine de personnes.
Oui, les enquêteurs vous ont interrogé sur une aide financière accordée dans les années 80 à Gabriel Matzneff, de la part de qui d'ailleurs? De la maison Yves Saint-Laurent, de Pierre Berger?
De Pierre Berger. Alors, tout ça a été dit et expliqué aux journalistes.
Non, mais
c'est bien que vous posiez la question.
Voilà. Alors, c'était une aide pour payer l'hôtel où Matzneff logeait. Vous ne niez pas ces faits-là, cette aide a existé.
Bien sûr, je ne nie pas. Pierre Berger, nous sommes en 1986, en pleine épidémie de sida, c'est le début. Pierre Berger est sollicité par des médecins, par des hommes de culture, par des ministres, pour en effet aider celles et ceux qui sont atteints du virus du sida ou qui sont malades.
C'est pour ça qu'il a été aidé, Matzneff ?
De ce que j'ai compris à l'époque, moi vous savez, j'étais le chef de cabinet, le bras droit de Pierre Berger, dans le domaine, je dirais, de la création et de la communication, et des mouvements et des causes humanitaires. Pierre Berger m'avait dit en effet de joindre l'écrivain Gabriel Matzneff, que je ne connaissais pas, j'avais 29 ans, il faut me pardonner, mais je ne le connaissais pas, pour lui annoncer qu'à la demande de ses médecins, Pierre Berger, à titre personnel, pas la société Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, à titre personnel, en tout cas, c'est ce que je crois, mais c'est vérifiable auprès des comptables de Pierre Berger. Pierre Berger a donc aidé Gabriel Matzneff à être hébergé. Et c'est par le livre de Vanessa Springora que j'ai appris en début d'année, en lisant ce très beau livre, qu'en effet, ça n'était pas parce qu'il était malade, mais c'était pour héberger cette relation, organisée d'ailleurs, si j'ai bien compris, avec la mère de Vanessa Springora, ami de l'écrivain, qui pose quand même un problème de la responsabilité des parents. Donc, en quoi ai-je un lien, un rapport avec... Je n'ai pas donné de l'argent personnel. Des journalistes l'ont écrit. Ils m'ont même écrit que j'avais payé plusieurs hôtels. Un, je n'en avais ni les moyens. Et ensuite, je ne peux pas croire un instant que Pierre Berger aurait financé les amours d'un écrivain avec une jeune femme. Je pense que ça n'était pas du tout dans ses souhaits et dans ses projets. Mais je voudrais dire, si vous permettez...
Oui, rapidement, on va envoyer la pub, mais on a encore du temps derrière.
Mais je voudrais vous dire quand même, est-ce qu'on va accuser Jérôme Garcin, Antoine Gallimard, Hélène Carrère-Dancausse, Marguerite Duras, elle est décédée?
Ouais, on va pas faire la liste, parce
attends,
que là...
Mais oui, mais pardon,
y a une grande liste,
est-ce qu'on
on va tous
accuser
citer...
tous ces gens, Bernard Pivot, qui l'ont reçu, qui l'ont soutenu, les libraires, Madame Colette Kerber, des cahiers de Colette, qui a fait des signatures ou qu'il recevait. Est-ce qu'on va les accuser d'être complices de pédophilie?
Oui, non,
parce qu'ils fréquentaient l'écrivain.
Ne reproduisez pas ce que vous
excusez
reprochez
moi,
aux autres.
Excusez-moi, mais je pense que c'est tout à fait inacceptable.
Ouais, on revient tout de suite, Christophe Gérard. Il y a des questions et il y a des réponses. Christophe Gérard est dans Culture Média ce matin.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Demain, jeudi, appel à manifester de certaines féministes en marche du Conseil de Paris devant l'hôtel de ville. Christophe Gérard, le mot d'ordre, c'est pas d'adjoint à la culture du viol. On peut lire aussi démissionnons le soutien de pédocriminels au pluriel Christophe Gérard. Ça vous fait quoi?
Ça me dégoûte, mais je dirais qu'au-delà de moi-même, c'est pas tellement moi le sujet finalement. Moi, j'ai à la fois une longue expérience. Et puis, j'ai beaucoup milité contre les discriminations et je relis les sujets. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette jeunesse qui est plongée dans ses écrans et qui est en train d'être manipulée et qui ne connaît pas forcément l'histoire. Moi, je vais vous dire qui je suis en quelques mots. Moi, j'ai révélé ma bisexualité, mon homosexualité au lycée quand j'avais 15 ans. Donc, je suis construit sur cette vérité de moi-même. Ensuite, j'ai perdu deux compagnons du sida dans les années 80. Je suis allé avec un médecin, le docteur Jean-Florian Métotal, qui est mort aujourd'hui du sida, en Israël, chercher un essai thérapeutique pour sauver Hervé Guibert. J'ai participé à la première émission de Mireille Dumas, Bas les masques, en 92, pour expliquer ce que c'est d'être père et homosexuel.
Pardon, mais en quoi ça entre dans l'histoire ?
Ça entre dans l'histoire parce que quand on a construit sa vie sur la vérité, sur des combats contre les discriminations, avec beaucoup de gens, c'est pas seul. Je ne peux pas laisser notre histoire, parce que celles et ceux qui militent aujourd'hui, leurs combats sont construits sur nos combats, sur nos victoires, donc non à l'effacement de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, vous voyez, j'aide par exemple, depuis quelques années, deux femmes iraniennes qui ont fui l'Iran et dont je m'occupe pour obtenir leurs papiers. Je le fais dans la discrétion la plus totale. Rien ne m'arrêtera dans mes combats contre les discriminations et d'aider celles et ceux qui sont en difficulté,
quand vous racontez
qui sont
tout
victimes.
Ça, on a l'impression que vous justifiez.
J'explique qui je suis, puisque l'on cherche à m'effacer, à me détruire et à considérer que le mâle blanc que je suis de 60 ans passé homosexuel doit disparaître. Non, mais ce n'est pas grave pour moi. J'ai la force et je me battrai. Mais je
vous
me
allez
battrai...
riposter en justice ?
Bien sûr, mon avocate Delphine Meillet a donc fait un communiqué de presse hier pour annoncer qu'elle portait plainte en mon nom auprès du doyen des juges de Paris. Bien évidemment, viol, pédocriminalité, enfin, sont des sujets contre lesquels je me bats. Je n'ai pas attendu ces jeunes élus du Conseil de Paris pour me battre. J'ai accueilli Oser le féminisme comme maire du 4e arrondissement dans ma mairie. J'ai une très belle lettre de la présidente de l'époque, Madame Maillefer, qui me remercie de mes engagements pour le féminisme.
J'avais quand même une
J'aimerais
question.
J'aimerais qu'elle le sache.
Pourquoi est-ce qu'à l'époque, moi c'est une époque que je n'ai pas vécue, pourquoi est-ce que personne ne semblait savoir que Gabriel Mazneff était un pédophile, alors que ses propos, ses écrits ne laissaient peu de place au doute ? Il vous a même dédié l'un de ses livres. Pourquoi est-ce que personne ne savait quand même ?
Alors, il m'a dédié un de ses livres, je vois la pique que vous introduisez.
Non, c'est un fait.
Oui, mais ça serait mieux de dire qu'il a dédié le livre à trois personnes.
Dont vous ?
Si vous permettez. Oui, mais les journalistes jamais ne le rappellent. À ses médecins, lorsqu'il était malade, et à moi-même, le représentant de Pierre Berger. Évidemment, j'imagine, il faudrait lui poser la question, pour me remercier de lui avoir annoncé cette bonne nouvelle, que sa convalescence était prise en charge. Voilà, je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu de sa part, en 1993, au moment de la publication de ce livre qui parle de ses amours à l'hôtel Taran, une perversion et un calcul pour les années futures où il serait mis en difficulté. Mais je pense qu'il faut poser la question aux gens que j'ai cités précédemment, Jacques Toubon, Frédéric Mitterrand, Jérôme Garcin, Hélène Carrère-Dancourt, oui. Tous ces gens, demandez-leur pourquoi ils fréquentaient Gabriel Mazneff et pourquoi ça ne leur posait pas problème.
Vous êtes sous protection policière, Christophe
Gérard. Protection.
Pourquoi ?
Ce ne sont pas des mouvements très sympathiques. Vous savez, rentrer chez soi et recevoir de l'urine sur le visage, ça n'est pas très agréable, je ne le souhaite à personne.
C'est ce qui vous est arrivé ?
Mais ça n'est pas grave, mon cas. C'est ce qui attend les prochains qui est beaucoup plus grave. Donc moi, je vais me battre avec mon avocate et avec beaucoup de soutien. Pas des soutiens people, avec des soutiens de femmes et des hommes engagés dans les mêmes combats que moi pour dénoncer cette espèce de terreur qui est en train de s'installer, où c'est une sorte de justice de la rue, une justice de la peur, de la terreur, de l'inquiétude, de l'intimidation et de l'effacement et de l'annulation des gens qui est en train de se mettre en place. Il faut qu'une loi soit prise pour protéger absolument nos enfants, les jeunes générations, des réseaux sociaux, qu'une éducation soit faite. Le garde des Sceaux a annoncé d'ailleurs qu'il y aurait sans doute sur la transparence des réseaux sociaux un projet de loi qu'il portera. Nous le soutiendrons. C'est extrêmement important.
Christophe Gérard, on va, après la pub, passer à un été particulier, parce qu'après tout, vous étiez venu pour ça à l'origine,
oui.
Et votre programmation culturelle. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
L'adjoint à la culture de la mairie de Paris, Christophe Gérard, est dans Culture Média ce matin. Un été particulier, c'est votre programmation culturelle à Paris à partir de ce soir et jusqu'au 15 septembre. Plus de 200 spectacles et performances, tout est gratuit. Il fallait impérativement riposter au coronavirus, c'est ça l'idée de départ.
Oui, même si l'enfermement, comme je l'appelle, le confinement, nous a permis pour beaucoup et de regarder des films extraordinaires, de revoir des chefs-d'œuvre, de lire et d'écrire.
Dans le meilleur des cas, hein, tout ça.
Dans le meilleur des cas, notre préoccupation pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, et pour moi-même, son adjoint à la culture et le premier adjoint Emmanuel Grégoire, c'était de nous assurer que celles et ceux, pour un motif pécuniaire ou sanitaire, qui ne pourront pas partir en vacances et qui sont la majorité à Paris et dans la métropole du Grand Paris et la région de Paris, qu'ils aient pendant l'été la possibilité de visiter cette capitale, qui est leur bien commun, de découvrir parfois des petits musées, des galeries, des monuments. Il y aura un parcours aussi avec ma collègue Karen Taïeb sur le patrimoine et les fontaines, par exemple, de manière à ce que tout un chacun qui ne part pas en vacances puisse vraiment, je veux dire, profiter de sa ville et puis s'élever, se faire plaisir, partager. On a déjà d'ailleurs beaucoup de messages venant d'autres villes, d'autres régions où des visiteurs vont venir. C'est bon pour l'économie, c'est bon évidemment pour Paris. Et c'est nécessaire pour le moral individuel et collectif. Et les quartiers populaires sont évidemment très pointés, très ciblés. Les arts de la rue seront présents jusqu'en Seine-Saint-Denis. Mais chaque arrondissement, chaque quartier sera pris en compte. Et la Seine sera également mise à l'honneur avec le festival Paris l'été de Laurence de Magalhaës et Stéphane Ricordel pour mettre par exemple des petites formes musicales sur des barges et des péniches. Il y aura aussi la programmation au lycée Jacques de Cour dans le 9e à la frontière du 18e qui m'est cher. Il y aura partout, ici ou là, dans les écoles, dans les EHPAD.
Alors je voudrais qu'on parle de deux secondes, oui, des EHPAD justement, parce qu'on ne va pas pouvoir tout décrire. Les EHPAD ont beaucoup, beaucoup souffert, évidemment, on le sait, pendant le confinement. On est même allé aux limites du tolérable. Qu'est-ce que vous proposez dans les EHPAD cet été ?
Alors, c'est avec Nicolas Drouin, le directeur de l'Orchestre de Chambre de Paris, que la ville de Paris finance, soutient, qu'il a mis en place une série de petits concerts, de petites formes, parfois des quatuors, des trios, dans les EHPAD, mais également dans les lieux où il y a les mineurs isolés ou les femmes seules avec des enfants réfugiés, que régulièrement se tiennent un certain nombre de concerts. Déjà, plus d'une vingtaine ont eu lieu et ils seront partout dans ces lieux parce que nos aînés ont particulièrement souffert. La musique, la culture, on le sait, est le plus grand des liens, le plus beau des pièges de l'humanité pour retrouver un sens à notre vie. Donc non, le coronavirus n'aura pas notre peau, mais la création et les artistes seront sans doute la plus belle des réponses. Et hier, voyez par exemple Place de la République, la première initiative que j'avais prise avec Plantu, Plantu a répu, a été saccagée.
Par qui ?
Alors voilà, par ces jeunes qui sont désœuvrés, par une petite bande désœuvrée. Donc bien sûr qu'on doit pointer du doigt cette délinquance, mais on doit surtout trouver la source et la guérir plutôt que de la punir, parce que punir ne sert à rien. Une fois qu'ils sortiront de prison ou qu'ils seront punis, ils ne sont pas meilleurs et je crois qu'il faut plutôt les aider à trouver le chemin de la démocratie. Alors, donc, Plantu a répu ira en effet dans d'autres lieux de manière à ce que cette exposition se tienne. Ça a été le démarrage d'un été retrouvé, d'un été apaisé, d'un été aimant.
Vous parlez des jeunes, justement, d'un seul coup, je me dis, est-ce que toute cette programmation, allez vous renseigner par vous-même, là, je parle aux gens qui nous écoutent. Parce
Paris.fr.
Paris.fr, il y a tellement de choses, trouvez ce qui vous intéresse, mais est-ce que tout ça parle aux jeunes précisément ? Qu'est-ce qui est attirant là-dedans dans ce que vous proposez quand on a, disons, 14 ou 16 ans ? Vous croyez que...
Vous savez, quand j'ai créé Nuit Blanche, la première édition, mais surtout la deuxième, c'était impressionnant de voir tous ces jeunes venus plutôt de la petite couronne et de toute la banlieue dire « nous, on aime beaucoup parce que c'est gratuit, ça nous parle, on est libre, c'est beau ». C'est ouf, enfin, on entendait des mots d'ailleurs de la jeunesse, mais vous savez, il ne faut jamais sous-estimer le goût pour le beau de tout un chacun. Le 104 est un exemple.
Non, je ne sous-estime pas, je dis qu'il y a quand même
non, mais je crois que,
un petit pont à franchir,
oui,
parfois.
Oui, mais c'est toute la médiation que nous faisons, c'est tout le travail qui est fait avec les maires d'arrondissement, majorité et opposition, leurs élus à la culture, toutes les directions de la ville qui permettent en effet dans les quartiers... La ville du quart d'heure, si chère à Anne Hidalgo, c'est celle-là, celle qui va permettre à ces jeunes, en effet, livrés à eux-mêmes...
Eh bien, de regarder un spectacle pendant un quart d'heure.
Oui, et puis même de faire des rencontres et de pouvoir éventuellement même s'exprimer par la danse, par le chant. Ils sont très créatifs, vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Vous privilégiez, cela va sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant, le plein air, les activités en plein air.
Bien entendu, port du masque, qu'Anne Hidalgo réclamait depuis le début. Elle a été entendue. La réouverture des parcs et jardins. Il y avait une campagne électorale. On avait compris pourquoi c'était resté fermé. Donc voilà, on est sorti de cette période. Ça sera déambulation, respect des gestes barrières. Nous travaillons dans le respect des règles sanitaires et nous écoutons les médecins.
Je vais prendre encore un exemple pour terminer, pour le coup un exemple précis. Je vois annoncer un spectacle itinérant, Anne Alvaro et Audrey Bonnet, autour de la pièce de Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton. C'est quoi un spectacle itinérant? C'est dehors dans la ville en marchant?
Alors j'invite, moi je crois que c'est bien qu'on ne livre pas tous les secrets. Hein. J'avais été contacté par le metteur en scène. J'ai donc livré le dossier à la direction des affaires culturelles et après c'est le jury qui a choisi de le soutenir, c'est très bien. Parce qu'en effet, la solitude dans les champs de coton, je pense que ça évoque plusieurs sujets, des sujets de discrimination, des sujets de solitude. Dans l'époque actuelle de Roland, de racisme, je pense que le texte est fort. Et puis cette distanciation, voilà, il y a une technique qui est mise en place, qui est intéressante, et je pense qu'il faut venir découvrir. Et d'ailleurs, j'appelle nos amis des autres régions, qu'ils soient d'Alsace.
Tout le monde veut venir à Paris, c'est
oui,
le principe.
Oui, mais je les appelle à venir. Vous savez, il y a des TGV avec des forfaits, des prix intéressants pour les familles. C'est 2 heures de trajet, qu'ils soient de Bordeaux, 3 heures de Marseille, 2 heures et quart de Valence.
Vous travaillez à la SNCF maintenant, alors?
Ah oui, oui. Moi, vous savez, je vais en Pologne, ou en Italie, ou en Suisse, ou en Hollande, que par le train. Depuis très longtemps.
Ça s'appelle Un été particulier et c'est tout l'été à Paris. Allez vous renseigner sur le site paris.fr, c'est ça?
Oui, c'est sur le site paris.fr. Le hashtag, moi je dis dièse hein, parce que je parle le français, je défends la langue française, c'est dièse un été particulier collé sans accent.
Ça c'est sur Twitter par exemple. Les indispensables de Culture Média, ça consiste à faire tourner, recommander ce qu'on a aimé et on y arrive doucement sur Europe 1. C'est tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Et ça y est, oui, c'est l'heure des indispensables de Culture Média. On va entendre les vôtres, Christophe Girard, dans un instant. Mais d'abord, comme chaque mercredi, bonjour Thibault Lambert.
Bonjour Pascal, bonjour
nous,
à tous.
Nous traînons sur YouTube. Aujourd'hui, vous revenez sur cette série de vidéos qui a révélé les mensonges d'un expert français de tueur en série, pseudo.
Pseudo, oui, vous en avez sans doute entendu parler ces derniers mois, surtout si vous êtes fan de grandes affaires criminelles. L'homme en question s'appelle Stéphane Bourgoin, journaliste et écrivain, régulièrement invité dans les médias, présenté comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série, à la renommée mondiale. En 2 décennies, il a publié plus d'une 30aine d'ouvrages, collaboré à de nombreux documentaires, animé autant de conférences. Mais ce n'est pas tout, son histoire personnelle fascine également. Voici comment elle se présentait en 2017 devant la caméra du site Combini.
Stéphane Bourgoin, j'ai interrogé maintenant 77 tueurs en série depuis 1979 à la suite du meurtre et du viol de ma compagne en 1976.
Vous avez donc entendu, c'est ce crime épouvantable sur sa femme Aileen à Los Angeles par un tueur en série qui aurait amené l'expert à se passionner pour ces criminels. Quelle histoire! La suite de sa vie, Bourgoin la raconte de manière décousue. Un passage à Quantico, le prestigieux centre de formation du FBI, puis des entretiens privilégiés avec les serial killers les plus sanguinaires, dont le plus célèbre d'entre eux aux États-Unis, Charles Manson. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire, il a découvert aussi un charnier de victimes en Afrique du Sud. Il possède l'urne funéraire d'un autre tueur célèbre, Gerhard Schaeffer. Il a été voisin de Stephen King. Bref, à l'entendre, la vie de Stéphane Bourgoin est un roman macabre à elle toute seule.
Sauf qu'en janvier dernier, Thibault, une chaîne YouTube est créée pour contester le plus grand nombre de ses déclarations.
Oui, une chaîne qui publie dès janvier et dans les mois qui suivent une série de 9 vidéos intitulée « Serial Mytho ».
Et le FBI a dit que j'avais trouvé l'assassin qui a commis ce meurtre célèbre.
Roger Depew a écrit un bouquin intitulé « Between Good and Evil ». Donc Roger Depew ne parle pas du tout de lui. Son nom n'apparaît nulle part dans le bouquin.
Une voix féminine, pas de nom, pas de visage, seulement un pseudo en guise de signature, 4e œil corporation. C'est très amateur sur la forme, pas facile à regarder, un ensemble de captures d'écran, d'images d'archives, d'enchaînements un peu brouillons, mais derrière, qu'on ne s'y trompe pas, il y a un vrai travail de fourmi pour vérifier si tout ce qu'a dit l'expert autoproclamé est bien vrai. La chaîne a même contacté John John Douglas, une légende du FBI, qui a répondu.
Et alors, verdict ?
Eh bien, les vidéos relèvent un très grand nombre d'incohérences, de mensonges ou demi-mensonges, voire d'anecdotes invérifiables. Si bien qu'au mois de mai dernier, sous la pression des internautes et grâce à la contre-enquête de plusieurs médias, Stéphane Bourgoin a fini par avouer et reconnaître qu'il avait romancé, inventé parfois une grande partie de sa vie. La femme qui a été tuée en 1976 ne s'appelait pas Eileen, ce n'était pas sa compagne, mais une serveuse qu'il avait croisée quelques fois. Aussi, il n'aurait pas interrogé 77 tueurs en série, mais une petite dizaine et certainement pas Charles Manson.
Il a donc été démasqué. Qui se cache derrière Quatrième Œil Corporation ou Corporation, je ne sais pas.
Corporation, eh bien, il y a au départ 8 personnes, des Français, des Belges, une Canadienne, tous membres d'une page Facebook sur les serial killers. Et sur cette page, des discussions de fans commencent à remettre en cause Stéphane Bourgoin. Alors, il y a un an et demi, le petit groupe commence son enquête, puis choisit YouTube pour faire éclater la vérité. Aujourd'hui, 2 membres de Quatrième Œil Corporation sur les 7 restants sont sortis de l'anonymat, dont Julie, qui, elle me l'a dit, n'a pour l'instant pas envie de retenter l'expérience.
Bah, on est complètement amateurs, nous on n'avait jamais créé de vidéo YouTube avant ça, on a tous un travail à côté et on voulait que la vérité se sache, mais on voulait surtout qu'en fait M. Bourgoin présente ses excuses aux lecteurs, aux victimes et bah, tous ceux qui ont cru en lui en fait. Quoi. Enfin, moi en tout cas personnellement j'ai été vexée parce que c'est quelqu'un que j'admirais en fait. J'admirais son travail, j'admirais le fait qu'il ait pu faire tant de choses alors que bah, finalement il n'a rien fait quoi.
Voilà, alors ces vidéos, elles ont été aujourd'hui retirées de YouTube pour des questions de droits d'auteur. C'est Stéphane Bourgoin qui a attaqué, mais vous pouvez les retrouver sur leur site quatriemeoilcorporation.me.
Bah moi je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent, je mens tellement sans...
Ne serait-ce pas Jeanne Moreau qu'on entend.
Et non, c'est Carmen Varia Vega, on a changé la chanson,
ah ouais,
d'accord, j'ai oublié de vous dire, c'est la menteuse.
Ouais. Vous me tendez des pièges comme ça en
bah,
direct.
Je vous ai menti
aussi un peu.
Je vous
reconnais bien là, ouais. Thibault Lambert, merci, ça s'appelle Serial Mytho. Bon, là c'était pas quelque chose qu'on faisait vraiment passer, qu'on faisait... Si, on peut aller voir, mais enfin bon, voilà, on va arriver à...
C'est pour les aguerris de YouTube.
C'est pour les aguerris, exactement. À vous, Christophe Lambert, de faire tourner, de nous offrir vos
Christophe
choix culturels.
Lambert, ça me plaît beaucoup. Pourquoi pas Christophe Lefebvre?
Non, je suis
Pascal
plein délire. J'ai mixé Thibault Lambert et ça donne Christophe Lambert, vous l'admettrez.
Ah bah oui, surtout qu'il y en a V2, il n'y en a plus qu'un vivant.
Ouais. Alors connais... que Thibault Gérard, moins bien.
Ben, ouais, je préfère mon nom.
Bon, Christophe Gérard, vous êtes là?
Ah, je suis tout à fait là.
Alors, et... qu'est-ce que vous nous conseillez?
Bah, en écoutant Thibault Girard, ça m'a donné une idée. C'est que ça m'a fait penser à Jeanne Moreau avec Étienne Dao, chantant Genet.
Ah oui.
Ça, c'était magnifique. Mm-hmm. Et puis une petite
c'est pas
pensée...
tout neuf non plus. Hein.
Et une petite pensée... on est en direct, là. Oui. Et une petite
bah,
pensée pour Amy Winehouse, puisque c'est demain l'anniversaire de sa mort. Le 23 juillet 2011.
Mm-hmm.
Voilà. Et que Amy Winehouse, bah, c'est pas le contraire de... des sons et de la voix que nous venons d'entendre, donc j'ai beaucoup pensé à elle.
Mmh. Donc vous n'avez rien de récent, de spécial à nous recommander là?
Ah, pour l'été?
Ah bah oui.
Alors oui, pardon,
série,
pas, j'étais encore dans la chronique
vous avez
de Thibault Lambert, dont j'avais bien retenu le nom. Alors il y a un livre que je recommande principalement, qui est « De la réconciliation chez les primates » de France Deval, qui est un livre tout à fait extraordinaire, que j'ai découvert grâce à Cynthia Fleury, et puis pour moi le plus beau
bah,
des livres...
Dites un mot quand même.
Sur le livre?
Bah oui, qu'on sache de quoi il s'agit.
Bah, il s'agit de ce que les primates, finalement, quand on les étudie, quand on les regarde de près, quand on voit celles et ceux qui les ont suivis, eh bien, ont beaucoup à nous enseigner en termes de sagesse et d'intelligence.
Mm-hmm.
Et puis, je vous ai apporté à vous, Pascal Clark, le cadeau, un petit cadeau, hein, puisqu'il n'est pas très cher, du plus beau livre pour moi qui existe. Hein, j'ai eu la chance de la
Au
connaître.
Monde.
Ah oui, c'est sans doute le livre chef-d'œuvre pour moi. Et j'ai eu la chance de la connaître et de passer 2 journées avec elle. C'est « L'œil le plus bleu » de Toni Morrison, de « Bluest Eye », qui est un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, je suis allé l'acheter dans une librairie
Damned,
ce matin pour vous.
Un cadeau.
Et puis, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon dernier roman.
Oh non.
Voilà, « Perdre la paix », un roman historique que je vous recommande okay. sur la conférence de la paix. Mais je voudrais ajouter que...
Rapidement.
Oui, rapidement, bien sûr. Qui a aussi voilà, des chanteuses qui me sont chères et que je recommande d'écouter, de réécouter Anne Sylvestre. Par exemple, la très belle chanson sur Gabriel Russier. Pour celles et ceux dont la génération fait qui ne savent pas qui était Gabriel Russier, cette femme qui s'est donnée la mort pour avoir aimé un de ses élèves,
mm-hmm.
et qui est une chanson magnifique, Et puis d'écouter peut-être Kiddy Smile aussi, Zaz, Pomme et Christine and the Queens.
Voilà, c'était la programmation de Christophe Girard. Merci d'être venu dans Culture Média ce matin. Un été particulier jusqu'au 15 septembre. Vous allez bientôt pouvoir découvrir la première page en avant-première d'un des livres de la rentrée. Ce sera dans, disons, moins de 2 minutes. À tout de suite. La salle pour le concert se trouvait au cœur d'une cité. Je n'avais jamais vu des blocs si longs, si hauts, si nombreux, j'allais dire si agressifs. Ils écrasaient plus qu'ils ne logeaient. On était au franc voisin. Je ne voyais que des Arabes. C'était en région parisienne, en vérité nulle part. Polo m'a fait « Ça craint ici, non ?» J'ai répondu « Non », vexé par cette réflexion interrogative de petit beauf. Je n'admettais pas ces saillies à la con chez mes amis. Je n'admettais pas, mais je venais de mettre un genou à terre. Assommé par tant de béton, je ne voulais pas en savoir plus sur ces honnêtes voisins certainement morts avant que n'aient éclos de probables forêts à leur tour en voie d'extinction. Tout était si volumineux qu'on aurait pris les habitants pour des lilliputiens, bruns de surcroît. Même les voitures semblaient minuscules et les éclats de voix faisaient péter des gutturales qui m'étaient familières. Me suis dit, c'est le bled. Pour le Toulousain que j'étais, l'horreur. Enfin, j'ai pensé, on est dans les quartiers et c'est là que je dois porter la bonne parole. Ma place est ici. C'était la première page de La part du Sarrasin signé Majid Cherfi à paraître chez Actes Sud. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, nous serons avec le comédien Vincent de Dienne et avec le présentateur d'Info sur la télé publique Jamel Mazzi. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas. À demain.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.